France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Nous sommes le mercredi 13 mai. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un mercredi à la plage, dans le Finistère et en Loire-Atlantique, plusieurs communes ont obtenu l'autorisation de rouvrir une partie du littoral. Une mesure de justice sociale pour le maire de Saint-Nazaire que nous entendrons après les autres titres, Agnès.
Qui pourra voyager où en Europe cet été? La Commission européenne va tenter aujourd'hui de ramener un peu de cohérence au sein de l'Union. La mise en place officiellement d'une nouvelle procédure en France pour diagnostiquer les porteurs du virus et leurs proches. Au cœur de ce dispositif, les médecins généralistes. Que faire des centaines de milliers de tonnes de pommes de terre qui n'ont pas trouvé preneur ces dernières semaines? Les agriculteurs demandent de l'aide pour éviter un effondrement des prix. Les accros au shopping, de retour dans les centres commerciaux. Patience encore en revanche pour les amateurs d'art, les musées rouvrent petit à petit.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
Troisième jour de déconfinement, parole aux médecins ce matin. Estime-t-il que tout se déroule dans l'ordre? Quelles sont leurs inquiétudes? Quels sont aussi les derniers secrets du virus? On fait le point ce matin avec Odile Lenay. Elle est directrice du centre de recherche vaccinale à l'hôpital Cochin à Paris et professeure en maladies infectieuses à l'université de Paris.
Et à 8h20, Léa, nous recevons tous les deux dans le grand entretien de la matinale le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Il répondra bien sûr à vos questions. 01 45 24 7000.
France Inter. L'air est encore frais et l'eau sans doute très froide, mais après deux mois quasiment passés à la maison, se promener sur une plage sera un vrai moment de bonheur dont vont pouvoir profiter dès ce matin les habitants de plusieurs communes du littoral atlantique. Les premières plages rouvrent en effet ce matin dans le Finistère, d'abord au Conquet, à Porspoder et Plou d'Almézo. En Loire-Atlantique aussi, les communes de Labol et Pornichet, le préfet a donné l'autorisation. Mais attention, Kevin Dufraîche, tout ne sera pas permis.
D'abord, les horaires sont limités. Il n'est possible de fouler le sable qu'en journée, de 8h à 21h. Sont autorisées les promenades, la baignade et la pêche à pied. Le sport également, pour le plus grand bonheur des surfeurs, mais uniquement le sport individuel. Donc le foot ou le beach volley, ce n'est pas la peine d'y penser. Oubliez aussi la bronzette. Il reste strictement interdit de poser sa serviette ou même de s'asseoir sur le sable. Proscrit également les pique-niques, les apéros, la consommation d'alcool et d'ailleurs spécifiquement interdite sur la plage et comme partout ailleurs, aucun rassemblement de plus de 10 personnes ne sera toléré. Enfin, les communes doivent également veiller à afficher les consignes sanitaires à l'entrée des plages et au respect de la distanciation physique.
Des règles strictes donc que les maires devront faire respecter, mais pour David Samzin, le maire de Saint-Nazaire, dont les 20 plages devraient rouvrir également ce matin, cette mesure répond également à un impératif de justice sociale.
J'ai demandé l'ouverture de ces plages le plus tôt possible, le plus rapidement possible, ces plages, en considérant que c'est un bien commun. Je crois que les Français et les Nazériennes, n'ont pas vécu le même confinement, suivant le type d'habitat, qu'il soit individuel ou collectif. Et je crois que c'est une décision de justice sociale, d'équité sociale. Et donc, moi, j'entends bien que les plages ouvrent au plus vite, ce que m'a confirmé le préfet, en plage dynamique. Et je vous le redis, je fais confiance à la population pour, bien sûr, ce déconfinement, il doit se faire de façon progressive, avec tous les gestes barrières et les comportements adéquats. Je fais le pari de la confiance, de la responsabilité de la population. Et je n'imagine pas une seule seconde mettre des caméras sur nos plages. Il faut peut-être aussi arrêter d'infantiliser les gens.
Le maire de Saint-Nazaire, interrogé par Nicolas Théillard. L'ouverture des plages, élément essentiel d'une saison touristique à sauver. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui que la Commission européenne doit présenter son plan d'aide à l'industrie du tourisme. On attend notamment les indications concernant les conditions de circulation des voyageurs. Qui donc pourra aller où sans risquer une mise en quatorzaine? Pour l'heure, Éric Biégala, chaque pays a édicté ses propres règles.
L'Allemagne est probablement le pays le plus strict. Toute personne entrant dans le pays est soumise à une quarantaine systématique de 14 jours. Le régime est déjà en application depuis un mois. Les travailleurs frontaliers sont néanmoins exemptés. L'Espagne a annoncé hier un dispositif similaire. 14 jours de quarantaine pour tous les entrants à partir de vendredi et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Seuls quelques professionnels seront exemptés. Mesure similaire annoncée également en Grande-Bretagne dimanche. Similaire mais plus lâche. Une quarantaine de 14 jours également pour tous les voyageurs sauf pour ceux arrivant d'Irlande ou de France. C'est d'ailleurs un accord bilatéral entre les deux pays. La France n'imposera pas non plus de quarantaine aux Britanniques ni aux autres ressortissants européens d'ailleurs. Enfin, en Italie, le séjour des étrangers dans le pays est pour le moment limité aux déplacements professionnels urgents de 5 jours maximum. pas de mise en quarantaine et il n'y en aura pas davantage pour les touristes quand ceux-ci seront à nouveau autorisés dans le pays.
France Inter, il est 7h05. L'actualité aujourd'hui, Agnès, c'est aussi la mise en place officielle du dispositif de traçage des malades.
La plateforme de l'assurance maladie est effectivement opérationnelle pour recevoir les informations sur les personnes testées positives et remonter le fil de leurs contacts pour casser la chaîne de transmission du virus. Le premier niveau de ce dispositif, c'est donc le médecin généraliste. C'est lui qui va détecter le virus et transmettre les premières informations à l'assurance maladie. Daniel Messager a rencontré une praticienne d'Île-de-France.
Comme ses confrères, Laure Domingeon, médecin généraliste dans un centre de soins du Val-de-Marne, a reçu hier une lettre de l'assurance maladie l'informant du démarrage officiel de ce circuit de contact tracing. Enregistrer les informations, faire tester le patient symptomatique, mais aussi son entourage, et pour le connaître, les questions doivent être claires.
Les questions que je pose précisément, c'est est-ce que vous vivez seul au domicile? Est-ce que vous avez été en contact avec des personnes sans porter de masque, à une distance assez courte, potentiellement avec des épisodes de toux ou d'éternuement, pour évaluer si des gens dans leur entourage proche ont pu être contaminés et qu'il faudrait dépister. Plus loin, ça devient du domaine de l'enquête. Moi, je considère que j'ai pas les connaissances nécessaires pour pouvoir faire une enquête complète. Puis c'est pas mon métier. Moi, c'est vraiment la relation de soignant. Moi, j'ai pas les moyens.
C'est l'assurance maladie qui prendra le relais pour remonter la chaîne. Chaque caisse départementale constitue sa brigade. Environ 4000 personnes en tout pour l'instant. Ce premier lien établi par le généraliste est donc primordial, surtout aujourd'hui.
On est en cours de déconfinement, donc on est quand même plus libre de nos mouvements. Et puis derrière, on lui annonce qu'il est suspect et qu'il doit rester confiné à la maison. C'est sûr que ça peut être mal vécu, cet isolement à domicile de nouveau alors que tout le monde ressort.
C'est pour ça qu'il faut du temps, 55€ pour cette consultation plus longue, avec peut-être une valorisation supplémentaire pour ceux qui iront plus loin dans la remontée des cas contacts.
708 personnes ont été testées positives au Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Le virus continue donc de circuler, même si les cas graves continuent, eux, de baisser. Avec 2542 patients en réanimation, ils étaient plus de 5000 au plus fort de la crise. Dans l'Hexagone, l'épidémie a tué près de 27 000 personnes. Cette crise sanitaire a révélé des inégalités à l'insupportable avec des métiers mal payés qui se sont retrouvés en première ligne. Syndicats, mais aussi des députés de l'opposition et de la majorité, demandent donc l'organisation d'une conférence sociale. Le gouvernement a fait un premier geste avec des primes pour les soignants et les fonctionnaires, mais certaines branches ont été oubliées. Les éboueurs, les caissières ou encore les routiers. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. Eux aussi ont été en première ligne durant ces longues semaines. Les agriculteurs qui se retrouvent aujourd'hui avec des tonnes de produits en stock faute de débouchés dans les restaurants et cantines scolaires. Ce sont par exemple 450 000 tonnes de pommes de terre qui n'ont pas été transformées en frites ou encore 3 millions d'hectolitres de vin et 200 000 hectolitres de cidre restés dans les fûts. Il faut donc, Manuel Ruffez, trouver très vite des solutions.
Le vin, les pommes de terre, les betteraves aussi qui servent à faire du bioéthanol pour nos voitures, mais on n'a pas roulé. Tous ces stocks nous restent sur les bras. Pareil pour les produits laitiers, les bons fromages AOP et surtout, Justine Fusil élève des vaches de race Abondance en Haute-Savoie pour produire le fromage du même nom. Resto, stations de ski et marchés locaux fermés, il a fallu prendre des mesures.
Une décision collective a été prise de réduire la production de chacun pour essayer de limiter les stocks. De limiter la production des fromages. Si chacun fait un petit effort, ça permettra de passer cette crise avec le moins de dégâts possible.
Réduire la production, stocker, transformer, tous les outils ont été mis en œuvre pour tenter de gérer ces surplus. Chaque filière s'y est mise. Aurélien Clavel, vice-président des jeunes agriculteurs.
Par exemple, la filière viticole qui a fait une demande pour distiller une partie des vins qui étaient en stock. La filière betterave pour faire du gel hydroalcoolique. On peut citer aussi par exemple la filière pommes de terre orientée vers l'alimentation animale. Et puis on peut citer aussi les dons alimentaires, par exemple à des hôpitaux ou à des personnes plus démunies.
Tout est bon pour réorienter les productions, éviter de saturer les marchés et risquer surtout de faire chuter les cours.
Si les bars et restaurants restent donc fermés, les clients sont au rendez-vous de ce début de déconfinement, y compris dans les grands centres commerciaux qui ont obtenu le droit de rouvrir. C'est le cas de Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, près de Nice, sur la Côte d'Azur. C'est le grand format de ce 7 heures et il est signé Rémi Brancato.
Les accros au shopping sont de retour dans les allées de Cap 3000.
On en avait marre d'être chez nous, donc voilà.
On est venu faire un peu les magasins aussi, ça nous avait manqué. La liberté retrouvée ici. La vérité, c'est la liberté.
On a plus le risque de se prendre une amende, quoi.
Chérine, Mallory et Louise, des lycéennes, ont le sourire sous les masques. C'est obligatoire désormais au centre commercial.
Après, ce qui pourrait nous manquer, c'est les bars, restaurants et les plages. On a de la chance d'habiter sur la Côte d'Azur et on ne peut pas profiter de la mer.
Alors, faute de mieux, on fait du shopping. C'est ce que constate Laura Vaccaro, vendeuse en prêt-à-porter.
Pour l'instant, malheureusement, les parcs, les plages sont fermés. Finalement, le moyen de sortir chez soi, c'est d'aller faire les boutiques. Et puis, il faut dire ce qui, on a peut-être un petit peu changé de ligne aussi, donc on a besoin de se rhabiller.
Résultat, plus de 12 000 clients par jour dès l'ouverture. Pour le directeur de Cap 3000, Roch-Charles Rosier, c'est un bon redémarrage.
On est très content parce qu'on avait tablé pour 5 000, 6 000. On ne savait pas très bien, en fait, on ne sait pas, on redécouvre.
On découvre surtout les nouvelles règles du centre commercial.
Là, vous voyez les flèches ? Il faut les respecter, s'il vous plaît. Merci.
Naïma Titoua, agent de sécurité, indique inlassablement le nouveau sens de circulation.
En fait, les gens, vraiment, ils respectent pas vraiment les gestes barrières. C'est bien dommage.
Julie Magnan-Antonini, la directrice marketing, mise sur la pédagogie.
Sincèrement, dans 99,9% des cas, les gens sont conscients que tout ce qui a été mis en place, c'est pour eux, en fait, et c'est pour leur sécurité.
Pour Sophie Lopez, gérante d'un centre d'esthétique, c'est grâce à des règles strictes.
On vous fait désinfecter les mains partout. On est vraiment, je pense, vraiment en sécurité. Peut-être même plus que dans un centre-ville.
L'accès est d'ailleurs limité à 5600 personnes, soit un client pour 15 mètres carrés.
Reportage de Rémi Brancato. L'épidémie dans le monde avec plus de 290 000 morts, plus de 4 millions de contaminations sur 195 pays. C'est aujourd'hui le Brésil qui semble particulièrement touché avec 881 décès au cours des dernières 24 heures et un président, Jair Bolsonaro, qui minimise l'importance de la crise, s'opposant notamment à la mise en quarantaine des populations. Un nouveau projet de résolution doit être présenté au Conseil de sécurité de l'ONU, demandant un cessez-le-feu dans différents conflits pour faciliter la lutte contre la pandémie. Et puis en bref encore, le chef de la diplomatie américaine vient d'arriver en Israël pour discuter du projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée. C'est le premier déplacement à l'étranger de Mike Pompeo depuis près de 2 mois. Une visite qui intervient à la veille de la mise en place officielle du gouvernement d'union nationale en Israël de Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Enfin, un anniversaire un peu triste hier pour les 10 ans du centre Pompidou à Metz, fermé pour cause de Covid-19. La réouverture des 1223 musées se fait en effet progressivement, selon la taille du bâtiment, ses particularités et sa programmation. Certains ont déjà pu rouvrir. La plupart tablent sur une embellie début juin après un premier bilan du déconfinement. Isabelle Pasquier.
Au Louvre, la Joconde, ravie de ne plus être harcelée par les selfies, ne peut pas encore nous donner de rendez-vous, mais tous les grands musées rêvent d'une réouverture cet été, comme le Centre Pompidou avec l'exposition Christo, le maître du confinement des monuments. Le tableau de la réouverture est moins complexe pour des musées comme le musée Marmottan-Monet qui vise le 2 juin. Alors dès que possible, visitez les musées, c'est ce que nous conseille sa directrice Marianne Mathieu.
Nous pourrons accueillir une personne par 4 mètres carrés. Il faut imaginer se retrouver parmi des chefs-d'œuvre de musée avec 5 mètres devant soi en étant quasiment en tête à tête. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Faire l'expérience de ce qui va être, je crois, un moment magique.
Demain, réouverture de l'Institut Giacometti et bien sûr sous condition d'autorisation, le musée Soulages à Rodez le 21 mai, le musée de Grenoble le 27 mai, le Louvre Lens le 3 juin et mi-juin pour les musées de la ville de Paris, donc le Petit Palais, Bourdel et musée de la vie romantique. Enfin, avant son ouverture, prévue le 13 juin, le Centre Pompidou-Metz fêtera ses 10 ans cet après-midi à 16h sur ses réseaux sociaux avec un concert live de Rodolphe Burger.
Je vous ai vu, de mes yeux vus.
Reportage d'Isabelle Pasquier.
Merci Agnès, c'était le journal d'Agnès Soubiran.